Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Monsoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Troisième temps de notre série que nous consacrons au téléphone portable qui nous connecte et nous relie dans un monde sans fil. Lundi, nous comptions les points dans la guerre que se livrent État et opérateurs pour la 5G. Hier, nous observions l'Afrique et le saut digital réalisé en quelques années. Aujourd'hui, un point sur nos usages et nos pratiques quotidiennes. Le téléphone portable, l'espion du fond de nos poches, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Petit pas de sel, eh bien écoute.
C'est un peu genre le jeu de la caissière quand on est petite et on scanne tout. On se prend au jeu en fait facilement.
Quand il n'y a pas internet dans certains magasins, bah on ne peut pas utiliser l'application. Et ça l'énerve, donc on a changé de magasin par exemple.
Tout est vert, ravioli aux œufs frais, c'est bon.
J'arrive, je viens de me garer, donc bah, premièrement ici on est dans une zone rouge. Ok, bah, c'est du parking payant. Il me dit que le risque de contrôle est entre 15 et 16 heures, j'ai compris. Et je vais en plus de ça enregistrer ma position pour être alerté par la communauté si un contrôleur est vu près de ma voiture.
L'important, c'est que s'il y a une option d'acceptation, il existe bien une opportunité pour moi d'intervenir. Aucune loi ne peut nous protéger de nous-mêmes, donc si je mets à disposition mes données, je ne suis pas protégé. Je le suis quand je peux contrôler mes données, et c'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire valoir nos droits.
On entendait à l'instant l'eurodéputé vert allemand et vice-président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Jan-Philipp Albrecht, qui a largement contribué à l'élaboration du règlement général européen sur la protection des données, le fameux RGPD dont on parlera aujourd'hui. 1h42 sur son téléphone portable chaque jour. 2h16 même pour les 18-34 ans, c'est le temps moyen d'utilisation des smartphones en France selon l'étude Baromobile 2018. Et c'est dire la place qu'occupe dans nos vies cet objet. On lui confie notre emploi du temps, nos déplacements, nos comptes bancaires, nos informations de santé, nos goûts, nos émotions, nos passe-temps les moins avouables. Bref, il est bien notre confident et comme tout confident, on lui fait confiance. Et pourtant, on le sait bien, notre téléphone ne garde pas nos secrets pour lui. Données personnelles, informations privées. Il transmet le tout continuellement à ses concepteurs, qu'il s'agisse de Facebook, Google, d'Apple, Microsoft ou autres géants américains, ou même à des services de renseignement étatiques, quand des pirates sans foi ni loi ne s'en sont pas emparés auparavant. Alors quelle est la réalité de cette extorsion à grande échelle? Quels sont les outils qui peuvent nous en protéger? Les institutions et règlements que l'Union européenne a mis en place sont-ils à la hauteur des défis? Entre utilisation commerciale et surveillance politique, que reste-t-il de notre vie privée? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous en plateau ce matin. Amaël Guiton, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Libération, spécialiste des enjeux numériques. À vos côtés, Anne Belon, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politiste, chercheuse associée à l'Université Paris 1, une spécialiste des politiques numériques et de la régulation de l'Internet. Vous venez de finir une thèse intitulée, je vais donner le nom de votre thèse, le titre « Gouverner l'Internet, mobilisation, expertise et bureaucratie dans la fabrique des politiques numériques 1969-2017 ». Alors aujourd'hui, c'est évidemment l'ensemble du monde numérique est concerné, qui est impacté par cet enjeu de la protection des données, et pas seulement les portables. Mais est-ce que vous diriez que le portable tient une place à part, Amaël Guiton?
Je dirais que oui. Désolée, hein, donc je.
Oui, vous avez. Vous entend très bien.
Je dirais que oui, parce que d'une certaine manière, on le transporte avec nous tout le temps. Il embarque une très grande partie de notre vie en ligne. Moi, pour tout vous dire, j'ai regardé hier ce qu'il y a sur le mien, par exemple. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a conscience de ces enjeux et qui prend déjà des précautions. Mais dessus, j'ai effectivement énormément de contacts. Il y a des SMS, il y a des messageries privées. Il y a du mail, il y a les réseaux sociaux type Facebook, Twitter, etc. Il y a les appels téléphoniques. Et encore, c'est parce que j'ai pas non plus un grand nombre d'applis, mais il y a aussi des applis sur lesquelles il y a, vous le disiez, des données de santé, des choses comme ça, donc en plus des données sensibles. Sachant que ça, c'est des choses encore que je peux voir. Effectivement, il y a toute une partie de ma vie tout court, pas seulement de ma vie numérique, mais ça fait partie de la vie qui est dans ce téléphone portable. Et puis alors, il y a effectivement les choses qu'on voit moins. C'est la question de la géolocalisation, parce que finalement on est tracé en permanence, et on est tracé alors à la fois par les opérateurs téléphoniques pour une raison technique, c'est ce qu'on appelle le bornage, c'est-à-dire que quand on se déplace avec son téléphone, on se signale aux antennes relais, donc finalement on est traçable, et puis il y a des applis aussi qui le font, alors qu'on en ait d'ailleurs conscience, parce qu'on a décidé d'activer la géolocalisation pour que vos amis puissent vous suivre, par exemple, les ados font beaucoup ça, hein, ils se géolocalisent pour que leurs copains sachent où ils sont. Mmh. Et puis il y a des choses dont on n'a pas toujours conscience, par exemple, le fait que quand on a Google Maps, on peut décider de le voir, mais qu'on le voit ou pas, Google sait où on est. Mmh. Donc de toute façon, il y a effectivement aussi cette dimension-là qui est très forte.
On regardera évidemment ce qu'il y a dans ce monde moins visible. Anne Belon, même question, est-ce que le téléphone portable a une place à part ? Il y a quelques jours, le Wall Street Journal rappelait que Facebook, en l'occurrence, disposerait de données extrêmement privées via des applications très populaires, notamment dans le domaine de la santé. Amaël Guiton en parlait, alors c'est pas nouveau, on le sait, mais le journal américain révélait que via des applications, le réseau social peut collecter des informations sur votre rythme cardiaque, sur vos cycles menstruels, des informations relatives à une grossesse par exemple. Donc on est dans une collecte d'informations qui est particulièrement intime, et c'est pas seulement le positionnement, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus intime.
Et ce qui est frappant avec le cas de Facebook, c'est qu'en plus, il peut collecter des informations sur vous, alors même que vous n'avez pas de compte Facebook. Et c'est ce qu'ont démontré, par exemple, des ONG comme Privacy International, qui a montré qu'il y avait des applications, et notamment des applications de santé, qui envoyaient, qui avaient en fait dans leur code un petit tracker qui envoyait des données à Facebook, alors même que les consommateurs n'étaient pas forcément des usagers de la plateforme Facebook. Mmh. Donc on voit en effet, là je rejoins tout à fait le constat d'Amel, que ces petits objets qu'on trimballe avec nous tout le temps embarquent, comme elle disait, un nombre de données personnelles et parfois des données sensibles très importantes, et qu'on n'est pas toujours... Alors à la fois, on est parfois consentant, et on reviendra sûrement sur cette question du consentement explicite.
On va y revenir, bien sûr.
Mais en plus, ce que montre le travail de toutes ces ONG, c'est que parfois, on ne sait même pas, en fait, à qui on est en train de transmettre nos données personnelles.
Vous parliez de l'ONG Privacy International. Il y a quelques semaines, je crois que c'était à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, elle a révélé que 61% des applications qui avaient été testées envoient des informations dès que ces applications sont lancées, sans même que l'utilisateur soit inscrit, sans même avoir besoin éventuellement d'avoir mis ses identifiants, sans même effectivement avoir éventuellement un compte Facebook. Mais ce qui est important, là, Maëlle Guiton, c'est qu'on comprend que ce sont les applications qui sont au cœur de la collecte d'informations et moins l'objet smartphone par lui-même.
Ah oui, c'est pas tant l'objet effectivement que ce qu'il y a dessus, enfin sur la couche logicielle entre guillemets. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'ailleurs et probablement beaucoup depuis le fameux scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook. Donc pour rappeler rapidement, c'est une entreprise de marketing politique avec beaucoup de guillemets qui en gros avait récupéré des données siphonnées précisément via une appli de test psychologique sur je crois quelque chose comme 80 millions d'utilisateurs de Facebook et qui les aurait utilisés pour faire en gros du ciblage politique pro-Trump ou pro-Brexit. Et en fait, ça a ouvert, je pense, du côté des chercheurs comme du côté des journalistes, un véritable champ d'investigation sur le rôle des applications. Parce qu'il y a des choses qu'on voit. C'est-à-dire, on sait que Facebook a notre graphe social puisqu'on a des amis. Donc ça, c'est des choses très directes. On sait que Google accumule un certain nombre de données sur les termes de recherche qu'on rentre. On a commencé à prendre conscience qu'il y a aussi un écosystème, et notamment autour de Facebook ou autour de Google, parce que Google, c'est Android, c'est-à-dire le système d'exploitation du smartphone. Ça va être le moteur de recherche, ça va être YouTube. Facebook, c'est aussi Instagram. Donc, il y a ce croisement de données. Et puis alors, il y a effectivement tout ce qui s'est ouvert avec ces applications qui fonctionnent avec Facebook. Alors, notamment quand on s'identifie sur une appli avec son
login Facebook. Oui, on vous propose de le faire via votre compte Facebook.
Voilà, ce qui est un truc que personnellement, je n'ai jamais fait, parce que précisément, on voit bien que ça donne des informations à Facebook par définition et qu'il peut y avoir du croisement et que je trouve ça quand même puissamment désagréable. Mais effectivement, ce qu'ont montré les ONG ou ce qu'a montré le papier du Wall Street Journal, c'est qu'au-delà même, c'est ce qu'on appelle les profils fantômes, je crois, hein, de Facebook, et c'est une question qui avait été posée à Mark Zuckerberg Zuckerberg d'ailleurs l'année dernière, c'est qu'ils accumulent aussi des informations qui ne sont sur des gens qui ne sont même pas sur le réseau, tout simplement parce que alors ça passe par effectivement un interfaçage entre Facebook et ses applis, mais on va installer une application qui va prévenir Facebook qu'elle a été installée. Enfin, et du coup, effectivement, on a l'impression d'être un peu enserré dans un maillage qui est quand même assez fin.
Mais est-ce qu'on peut, nous utilisateurs, est-ce qu'on a les moyens de savoir précisément si telle ou telle application transfère, par exemple, des données à Facebook? Alors, on va pas les nommer, mais par exemple, moi, j'ai une application qui me sert à regarder si les aliments que j'ingurgite sont bons ou pas. Voilà. Est-ce que quand j'utilise cette application, les données qui sont rentrées là-dedans peuvent être éventuellement transférées à Facebook? Et puis, on va essayer de comprendre comment ça marche concrètement, Anne Melon.
Alors, aujourd'hui, les applications sont obligées de dire ce qu'elles font de nos données. Donc, si elles ne le font pas, et ce que montre... c'est ce travail fait par des associations ou par des journalistes, c'est qu'il y a un non-respect du RGPD, ou alors toutes les applications ne se sont pas encore mises en conformité. Mais aujourd'hui, la transparence est obligatoire. C'est-à-dire, une application n'a pas le droit de ne pas nous dire qu'elle est en train d'envoyer nos données personnelles.
Il faut lire
à
toutes
Facebook.
Les conditions que personne ne lit. Est-ce qu'il y a un site, je ne sais pas, qui répertorierait les applications et qui nous dirait, voilà, cette application, elle transmet telle donnée ou pas?
Alors, par exemple, Privacy International propose d'installer, mais alors ça demande d'être un petit peu aguerri quand même techniquement, c'est pas encore très intuitif, mais propose d'installer un bout de programme sur votre téléphone pour savoir justement quelles sont ces applications qui, sans votre consentement, transmettraient des informations à Facebook. Mais là, c'est vrai que ces associations font un gros travail justement pour nous renseigner et pour dénoncer tous ces cas de non-transparence dans la transmission de nos données personnelles.
Amaël Guiton, ça fait une dizaine de minutes maintenant qu'on a commencé cette émission et on a répété les uns et les autres à une moult reprises la marque Facebook.
Ouais.
Est-ce que Facebook a une place à part dans ce paysage des entreprises, des sociétés qui font de la collecte d'informations?
Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a un double phénomène. Je pense qu'effectivement, le fait que Facebook s'interface avec un grand nombre d'applications pose effectivement un problème en soi, et c'est tout ce qu'on est en train de découvrir, en gros, depuis Cambridge Analytica, vraiment, c'est-à-dire depuis bientôt un an, hein, finalement. On a l'impression que c'était la pointe émergée de l'iceberg, et puis qu'on est en train, petit à petit, d'avoir accès à ce qu'il y avait en dessous. Mais ceci étant, c'est aussi parce que des chercheurs travaillent sur Facebook, et des journalistes travaillent sur Facebook, peut-être plus aujourd'hui que sur Google, ce qui est certain.
Je vais vous poser la question autrement. Il y a eu en décembre dernier une enquête du New York Times qui révélait que jusqu'à fin 2017, je crois, Facebook avait offert un accès privilégié aux données personnelles de ses utilisateurs à un certain nombre d'entreprises, Netflix, Amazon, Spotify, Microsoft. Donc on a l'impression quand même qu'on a un environnement au centre duquel se trouverait Facebook quand même.
De toute façon, il faut...
Puisque c'est lui qui donne les accès aux uns et aux autres.
Mais il faut de toute façon partir du principe que les acteurs qui proposent des services de manière gratuite sont obligés de construire un business model autour de ça et qu'il n'y en a pas 50, parce que le business model, c'est l'exploitation des données personnelles. Donc quand vous êtes sur Facebook, qui effectivement est un service réel, je veux dire, c'est l'annuaire universel, c'est la communication avec ses contacts, etc., et qu'on ne paie rien... Ça veut dire qu'en gros, la monnaie d'échange, c'est nos données personnelles.
C'est bon.
Et c'est la même chose avec Google. Enfin, on a pour moi deux exemples de ce qu'on appelle le capitalisme. Enfin, c'est vraiment le capitalisme de la surveillance, pour le coup. C'est l'expression de la chercheuse Shoshana Zuboff. Et on est vraiment là-dedans.
Ouais, Anne Belon, Facebook et du coup Google ont des places à part dans ce mécanisme de collecte des données personnelles.
Alors, je pense qu'ils ont des places à part aussi parce qu'ils ont des places à part dans l'économie numérique, qu'ils deviennent ce qu'on appelle aussi un peu des gatekeepers. C'est-à-dire que tout passe un peu par eux. Je pense que aussi la visibilité de Facebook dans ce débat, elle tient au fait que c'est une entreprise qui pour nous est très visible. Mais par exemple, en ce moment, les entreprises de protection des données, enfin les associations, pardon, de protection des données personnelles sont en train d'attaquer d'autres grandes entreprises, notamment Criteo, donc qui sont là des entreprises plutôt de vente de publicité, pour montrer qu'elles font aussi une aspiration massive de données sans toujours recueillir notre consentement et pour braquer le projecteur vers d'autres très grosses entreprises, parce qu'on ne parle pas là non plus de petites start-up, mais qui sont vraiment des grosses entreprises, qui sont peut-être moins publiquement épinglées parce que aussi leur action est moins visible. C'est vrai que Facebook, on l'allume régulièrement sur son portable, on est très nombreux à avoir cette application. On n'a pas d'application Criteo sur notre téléphone portable et pourtant, ce sont aussi des entreprises qui sont dans cet écosystème et qui recueillent un nombre de données impressionnant sur nous.
En quelques mots, est-ce qu'on a une idée, à Maëlle Guiton, de ce que représente ce marché? Parce que l'intérêt économique commercial de cette collecte d'informations, c'est évidemment de définir des comportements pour ensuite adapter du contenu publicitaire aux utilisateurs. Ça permet de faire de la publicité d'une certaine manière sur mesure. Ça rapporte combien?
Honnêtement, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc comme c'est un chiffre que je n'ai pas en tête, je ne préfère pas m'avancer sur ce terrain.
On a une idée, Anne Belon?
Du marché de la publicité en ligne, non. Si on regarde les tendances, ce qui est important, c'est qu'il vient de dépasser complètement le marché de la publicité sur tous les autres types de médias. Et aussi qu'il est complètement dominé par Google et Facebook. C'est-à-dire que Google et Facebook font à eux deux plus de 50% du marché mondial de la publicité en ligne.
Bon, donc ça donne un peu une idée.
C'est vraiment énorme.
Amel Guiton, Apple. Il y a quelques semaines, il y a un site d'information spécialisé qui s'appelle TechCrunch qui révélait que Apple avait ordonné aux développeurs d'applications de ne plus utiliser de systèmes précisément qui aspirent justement ces données personnelles à leur insu, sous peine que leur application ne soit plus proposée sur leur plateforme, le fameux Apple Store. Comment interpréter cette soudaine préoccupation d'Apple pour les données de ses utilisateurs? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une préoccupation si soudaine? Est-ce que Apple est sincèrement préoccupé par cette question de la protection des données, Amel Guiton?
Alors, c'est pas une préoccupation si soudaine, parce qu'en réalité les utilisateurs d'Android ou du système d'exploitation d'Apple ont pu constater, quand ils comparent leurs usages, que certaines applications ont en réalité plus de droits et plus d'accès sur Android, qui est donc Google, que sur iOS, Apple. Mais ça s'explique tout simplement parce que, je veux dire, peut-être que Tim Cook est parfaitement sincère. Le patron d'Apple. Mais il y a une raison toute bête, c'est que le modèle économique d'Apple n'est pas celui-là. C'est-à-dire que le modèle économique d'Apple, c'est de vendre des objets, c'est de vendre des smartphones, ce qu'ils font d'ailleurs, ils les vendent assez cher. Et que par conséquent, pour protéger ce business model-là, ils ont besoin de la confiance de leurs utilisateurs. Et donc, effectivement, il y a depuis plusieurs années, en réalité, une position d'Apple sur la question de la protection de la vie privée et de la protection des données personnelles, qui n'est pas du tout celle de Facebook et qui n'est pas du tout celle de Google. On l'a vu sur certaines polémiques, ou même certains affrontements très durs qu'ils ont pu avoir avec le FBI aux États-Unis sur l'accès aux smartphones et le fait de permettre un accès facile aux forces de l'ordre. Ils ont toujours lutté contre en disant que s'ils faisaient ça, d'une certaine manière, ils rompaient le contrat de confiance avec leurs utilisateurs. Donc effectivement, la position d'Apple dans ce débat est une position particulière parce qu'elle est assez différente de celle des autres et elle s'explique par un modèle économique qui repose sur la vente du produit.
La stratégie, Anne Belon, d'Apple, c'est quoi? C'est de se placer en pionnier, en héros de la protection des données, de sorte à ce que ça devienne vraiment l'argument commercial du futur, peut-être devant les considérations techniques et technologiques?
Je pense pas qu'ils soient les héros de la protection des données. En tout cas, comme le disait très bien Amel, c'est vrai qu'ils ne vendent pas la même chose et que du coup, ils se positionnent sur ce marché de la vente de téléphones portables comme un acteur qui c'est leur marque de fabrique d'être plus respectueux aussi de la sécurité en fait de leurs appareils. Hein. Il y a beaucoup de communication autour de la sécurisation du système d'opération d'Apple, l'iOS. Et c'est vrai, donc Amel parlait de cette polémique autour des attentats de San Bernardino où le FBI avait demandé à Apple de transmettre en fait leur clé maître, donc c'est une clé de chiffrement pour avoir accès aux communications qui avaient été passées par présumés terroristes ou des éventuels complices. Et Apple avait refusé catégoriquement. Finalement, le code avait été craqué par les crypto-analystes du FBI, mais là-dessus, ils avaient proposé un affichage très fort de leur volonté de ne jamais transiger sur ce point. Mais ça a tient essentiellement, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, au fait qu'ils ne vendent pas la même chose. Enfin, ils ne sont pas sur le modèle de la gratuité et de la vente de nos données personnelles.
Vous parlez d'affichage. Est-ce que, Amaël Guiton, on est justement dans de l'affichage et au fond de la communication? Parce qu'effectivement, il y a eu cet affrontement pour qu'on puisse avoir accès, pour que les autorités américaines puissent avoir accès à ce téléphone portable d'un homme qui était accusé à l'époque de terrorisme. On se souvient aussi des échanges avec le directeur du FBI de l'époque, Christopher Wray, qui avait expliqué que Apple, c'était un énorme problème, un problème urgent de sûreté, qu'Apple, c'était le génie du mal, imaginé d'ailleurs par des gens absolument détestables. Est-ce qu'on est là dans, une fois encore, de la pure communication, du pur affichage? Et est-ce que derrière, on a... À quel est l'état de la coopération? Voilà, c'est ça la question. Quel est l'état de la coopération réelle entre Apple et les autorités américaines? Est-ce qu'Apple se contente de dire, voilà, nous, on protège les données, mais derrière, collabore avec les agences américaines? Ou est-ce que réellement, il y a des affrontements durs et fermes?
J'aurais tendance à dire un peu les deux, mon capitaine, en fait. C'est-à-dire que il y a de toute façon des réquisitions qui sont faites à Apple par les services de police, les services de justice ou d'ailleurs les services de renseignement aux États-Unis, qui sont des réquisitions de données. Mais il y avait eu un affrontement très dur à ce moment-là parce que ce qu'on leur demandait était un peu différent. C'est-à-dire qu'on leur demandait, en gros, de développer un logiciel ad hoc pour un cas précis, mais dont ils estimaient que ça aurait consisté, à partir du moment où ils auraient développé ce logiciel, à affaiblir de manière générale la sécurité de leurs produits. Bon. Alors, moi, je préjuge jamais de l'hypocrisie des gens ou de la seule volonté de protéger son marché, etc. Mais il se trouve que ça rencontre aussi un débat qui est plus profond, qui est celui qui se joue autour de la cryptographie de manière générale, qui est, enfin, en gros, une technologie qui permet de chiffrer les données pour les rendre inaccessibles facilement. Et c'est un débat qui court, de toute façon, bon, en réalité, depuis les années 90, mais qui a beaucoup été réactivé après les révélations d'Edward Snowden, parce que ce que disait Snowden quand même, il faut pas l'oublier, c'était que l'accès aux données avait été largement facilité pour notamment les services de renseignement et que tout ça était quand même devenu un peu, c'était un peu open bar, quoi. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de développeurs qui ont travaillé sur un renforcement de la sécurité à la fois des terminaux, des applications, etc. Et du coup, effectivement, ça crée une tension avec l'univers de la police et de la justice, ça c'est très net. Et la position d'Apple n'est pas que la position d'Apple. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup d'experts en cryptographie qui disent qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait parce que si on affaiblit de manière générale ce qui permet de protéger les données, on l'affaiblit pas seulement pour accéder aux données d'un suspect, mais ça veut dire qu'on rend tout le monde plus vulnérable, y compris parce que ce type d'outil peut ne reste jamais forcément dans les mains, entre guillemets, des bonnes personnes. Et on l'a vu typiquement plus récemment avec des logiciels espions de la NSA qui se sont retrouvés dans la nature et qui ont été utilisés manifestement par des pirates informatiques probablement agissant pour le compte d'un État. Donc voilà, il y a aussi ce côté très proliférant de ce qui affaiblit la sécurité. Et c'était un des enjeux du débat entre Apple et le FBI.
Alors, il y a l'affrontement, vous le dites, entre Apple et les autorités américaines, derrière lequel il y a aussi une forme de coopération. On n'est pas dans un affrontement aussi brutal qu'on pourrait l'imaginer. Quand on regarde entre les acteurs eux-mêmes, est-ce que, par exemple, Apple se confronte à d'autres acteurs du numérique particulièrement ambitieux en matière de collecte de données? On parlait de Facebook, par exemple. Est-ce qu'il y a une volonté d'Apple de tordre le bras à Facebook pour qu'il limite ses velléités en termes de collecte d'informations personnelles?
Anne Belon. Pas qu'il y a forcément une volonté de tordre le bras à Facebook, parce que les utilisateurs d'Apple, pour la plupart, ont aussi des applications Facebook, donc ils sont pas, voilà, je pense qu'ils sont pas sur les mêmes marchés, si on raisonne en termes de marché. Je parlais de communication tout à l'heure, parce que par contre, sur le marché des téléphones portables, ces questions de la sécurité, on voit bien qu'ils sont très importants. Et quand aujourd'hui on a le FBI qui va dire aussi n'achetez pas du Huawei parce que c'est dangereux pour votre sécurité, Bon, moi, en tant que chercheur, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est de la sécurité de Huawei, mais on voit bien que derrière...
Vous avez lu le Figaro cette semaine, le patron de Huawei a répondu. Vous avez lu l'interview du patron de Huawei cette semaine dans le Figaro. Il dit, ne vous inquiétez pas, on n'espionne pas. Et par ailleurs, le Parti communiste chinois n'a rien à voir avec nos affaires. On est totalement indépendante. Vous avez été rassuré.
Totalement rassurée, j'ai été. Non, mais ce qu'il est important aussi de se rappeler derrière, c'est que bien entendu, il y a des enjeux aussi. Ce sont des produits qui, là, sont concurrents sur des marchés énormes. Et mon Dieu, donc je pense que là-dessus, le concurrent d'Apple, c'est pas tant Facebook que voilà, d'autres constructeurs. Et avec... ou Google, avec ses Google Phones. Il y a avec un rôle que joue le FBI qui est assez compliqué à comprendre là-dedans. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf.
Bon, maintenant qu'on a bien posé l'état des lieux, je vous propose Amel Guiton et Anne Belon d'en venir à ce qu'on peut faire pour se protéger. Pour se protéger de cette collecte des données, l'Union européenne a mis en place une nouvelle législation, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. C'est le texte de référence en matière des données personnelles. Il a remplacé une directive de 95, directive sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par rappeler, Amel Guiton, vous allez faire le travail de pédagogie, ce qu'il y a derrière ce Règlement général sur la protection des données? Est-ce qu'il constitue, selon vous, une avancée ?
Alors, c'est un texte qui est touffu, hein, qui est très long, mais dans lequel il y a, à mon sens, effectivement, un renforcement des obligations des acteurs privés. Ça c'est assez net sur la question du. Il faut savoir aussi qu'il y avait des choses qui existaient en droit français avant, hein, parce que nous, on a quand même la loi informatique et liberté de 78 qui a évolué au fur et à mesure des années et qui est un des cadres législatifs les plus protecteurs en Europe. Avant même le RGPD, on avait déjà, par exemple, la notion de consentement libre et éclairé dans le droit français. Mais bon, là, pour le coup, c'est dans un texte européen. Il y a des choses intéressantes comme la question de la portabilité des données, par exemple, c'est-à-dire la possibilité, en gros, de passer d'un type d'un service à un autre sur un même type de service de manière simplifiée. C'est-à-dire qu'il y a aussi une obligation pour les acteurs de nous permettre de récupérer nos données et de les emmener ailleurs plus facilement, donc il y a des choses qui peuvent être y compris actionnables comme ça. Il y a des sanctions qui ont été renforcées, ça c'est quand même très important.
On va y revenir.
Y a la question de
parce du qu'on a eu les
bâton.
Premières là, enfin peut-être Absolument. Qu'il devrait arriver. On va revenir dans un
la
instant.
La question du bâton en la matière, elle est évidemment très importante parce que ça fait partie des éléments qui, on va dire, découragent les mauvaises pratiques. Donc de mon point de vue, oui,
c'est plutôt une avancée.
De mon point de vue, c'est une avancée, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que comme dans tout texte de cette nature, il y a aussi des marges d'interprétation. Moi, ce qui m'a frappé effectivement au moment où j'ai travaillé dessus, c'est le consentement libre et éclairé de l'utilisateur n'est pas la seule base légale à une collecte de données. Il y en a d'autres. Et il y a notamment la question de l'intérêt légitime de l'entreprise. Bon.
Quoi l'intérêt légitime de l'entreprise ?
Et c'est qu'en gros, si c'est des données dont elle a besoin pour fonctionner, elle n'a pas nécessairement besoin du consentement libre et éclairé de l'utilisateur. Donc on voit bien là qu'on
est... Donc on donne la priorité à l'entreprise, d'une certaine manière.
Toute la question, c'est comment le juge...
interprète.
Où est-ce qu'il va mettre le curseur ? Et c'est pour ça que moi, en gros, depuis qu'il est entré en application ce règlement, je suis convaincue d'une chose, mais je suis absolument pas la seule, on est beaucoup à le penser, qu'il y a un enjeu majeur de jurisprudence sur cette question-là, et que notamment, on va y revenir, mais les premiers recours qui ont été engagés par des acteurs associatifs vont permettre justement d'établir une jurisprudence sur ce qui est dans les clous du règlement européen et ce qui ne l'est pas. Au moment où il est entré en application, c'était d'ailleurs assez frappant. On voyait tous les acteurs. Moi, j'ai reçu plein de mails en nous mettons à jour nos conditions d'utilisation.
Oui, on a tous reçu plein de mails, absolument.
Et dans certains cas, et notamment le cas de Facebook, je voyais des débats d'experts disant mais ça c'est peut-être pas tout à fait conforme au règlement européen et donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces recours qui vont permettre précisément de voir où est le curseur et de mesurer réellement à quel point on a avancé et si on a tant avancé que ça. Là pour le coup ça se joue dans un deuxième temps qui est le temps de la justice tout simplement.
Alors on va revenir justement sur ce temps de la justice mais d'abord Anne Belon, même question, est-ce que vous jugez-vous que c'est une avancée avancée par rapport à ce qui existait avant. Et puis, est-ce que c'est un texte qui est applicable? Il y a, nous disait Amaël Guiton, quand même une certaine marge de manœuvre. Il y a par ailleurs le fait que très probablement à l'avenir, la justice va devoir trancher pour justement mettre en application ce texte. Est-ce qu'il vous paraît suffisant, pertinent, à la hauteur du défi dont on parle?
Alors une avancée, oui, je pense que c'est une avancée indéniable, d'autant qu'on était assez mal partis quand même en 2012, parce qu'il y avait un lobbying en plus intense de toutes les entreprises du numérique, dont le business model en fait est fondé sur cette collecte massive de données. Donc oui, je pense que c'est une avancée, que en fait les révélations Snowden ont beaucoup fait pour alerter la conscience notamment de certains politiques et pour faire avancer ce texte dans le bon sens avec une marge d'interprétation qui reste large, et je pense, et c'est ça qui est passionnant pour les chercheurs et journalistes en tout cas, c'est de voir ce que ça va donner. Puisque même une sanction telle que celle qu'a infligée la CNIL à Google récemment...
Alors je rappelle, janvier dernier, la CNIL prononce une sanction de 50 millions d'euros à l'encontre de Google, en application précisément du RGPD, pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Voilà, je cite pour être tout à fait précis, et c'est en fait l'un des premiers effets de l'application du RGPD.
En tout cas, c'est la première grosse sanction. Il y a eu des mises en demeure qui ont été posées par la CNIL juste avant, notamment par exemple pour des startups qui vous géolocalisaient sans vous demander votre consentement. Mais là, c'est la première grande sanction un peu visible. Mais voilà, même cette sanction, donc elle est critiquée par certains parce qu'elle ne serait pas assez importante. C'est vrai qu'au regard du chiffre d'affaires de Google, on est sur quelque chose d'assez minime. Pour autant, est-ce qu'elle va même être validée? On n'en est pas sûr. Il y a un recours qui est déposé devant le
Conseil d'État.
Le Conseil d'État. Et comme on est sur des nouvelles procédures, est-ce qu'on ne va pas épingler la CNIL sur une procédure qui ne serait pas suffisamment claire, lisible? Est-ce que cette sanction va être maintenue? Je pense que là, les autorités de régulation ont un rôle à jouer, mais c'est même pas sûr en fait que leurs sanctions soient au final validées par une autorité administrative supérieure comme le Conseil d'État ici. Donc je pense qu'on est dans le flou et qu'il y a un empressement de ces associations à déposer des recours parce que il faut, on entendait Yann Albrecht tout à l'heure dire oui, il faut qu'on s'empare de cette question, il faut qu'on attaque les entreprises qui ne respectent pas ce nouveau règlement.
Oui, mais il faut le faire bien et il faut prendre son temps parce que ça fera jurisprudence cette affaire-là.
Et la justice est complexe. Une sanction trop rapidement prononcée avec une procédure qui ne serait pas parfaitement verrouillée pourrait finalement se retourner en fait contre l'autorité de régulation.
Sur cette affaire-là, et puis je vous demanderai après le caractère dissuasif, parce qu'effectivement, Anne Melon nous dit 50 millions, c'est quoi pour Google? Mais je vous en prie.
Ceci dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la... Pardon, désolé. C'est la première, et elle ne porte que sur une partie des griefs, parce que elle fait...
Sur quoi, vous pouvez nous expliquer? Reproche la CNIL à Google?
C'est ce que vous disiez, c'est la question, je crois, du défaut de consentement sur les publicités ciblées, mais il me semble, il faut.
J'ai bien compris, je l'ai cité, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Manque de transparence, j'en comprends tous les mots, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça que je veux comprendre. Manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Ça veut dire quoi?
En fait, ils ont fait le parcours d'un utilisateur qui configurait son portable sous Android.
Ouais.
Et ils ont remarqué qu'en fait, par exemple, on ne lui posait qu'une seule fois la question de est-ce qu'il acceptait que ces données soient utilisées par Google, sans, par exemple, lui demander pour l'ensemble de ces petites applications Google qui s'installent automatiquement sur votre portable et D'accord. qui vont constamment, en fait, capter et collecter vos données. Donc, c'est à partir de ce parcours...
L'expérience de l'utilisateur.
Voilà, ce parcours de configuration du portable Android. Donc, c'est vrai que c'est sur une toute petite partie de l'écosystème Google, si je puis dire. Par exemple, ils n'ont pas du tout regardé sur Internet, sur Gmail, etc.
Amaël Guiton.
Et c'est même une partie seulement des griefs du recours de départ, sachant qu'il y a aussi d'autres recours contre Google, contre Amazon, contre Facebook. Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que c'est une sanction qui est prononcée et qui s'appuie au départ sur un recours qui vient de la société civile, qui vient alors d'associations, effectivement, comme la Quadrature du Net en France, comme Privacy International en Grande-Bretagne, et puis comme cette ONG européenne qui s'appelle None of Your Business. C'est quand même très intéressant de voir qu'il y a effectivement des structures qui se mobilisent pour mettre ce texte européen à l'épreuve de la réalité, justement pour en tester les potentialités, les limites, etc. La sanction, elle n'est pas dissuasive en termes de comment dire, en termes monétaires. À ce stade, effectivement, parce que 50 millions d'euros, vu ce qu'est aujourd'hui le chiffre d'affaires de Google, j'ai pas le chiffre en tête, mais enfin, c'est quand même, ça ne va leur poser aucun problème. En revanche, c'est quand même une manière de dire, quand on contrevient à ce qu'est aujourd'hui le cadre législatif européen sur la protection des données, on s'expose à des sanctions, et on s'expose à des sanctions qui peuvent être de plus en plus fortes. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. On n'en est pas là du tout, hein. Mais l'idée de cette menace-là, je pense que ça va faire travailler des services juridiques.
Alors, c'est vrai que 50 millions d'euros, c'est pas grand-chose pour Google, mais c'est un texte européen. Si je multiplie 50 millions par 27, hein, j'enlève la Grande-Bretagne, on est à quoi, 1,35 milliard? Ça commence à devenir intéressant. Si toutes les CNIL des États membres posent ce type de recours, ça commence à faire très cher pour Google. Est-ce qu'il y a une stratégie précisément de l'Union européenne à attaquer ensemble, par exemple Google, pour justement peser plus fort, plus lourd, Anne Melon?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Donc, l'intérêt du RGPD, c'est déjà d'harmoniser quand même les règles de protection des données et de les harmoniser plutôt vers le haut, c'est-à-dire de manière plus protectrice qu'elles ne l'étaient dans la plupart des pays. Après, autour de Google, il y a quelque chose qui s'est joué, c'est pourquoi c'est la CNIL française qui a pu se saisir de ce dossier. Et donc ça, c'est parce que on estimait que le service Google qui était responsable de cette question des données personnelles n'était pas hébergés, si je puis dire, par leur antenne irlandaise. Quasiment le lendemain de la sanction, Google a rapatrié cette direction juridique en Irlande. Donc il y a tout un tas de
recours. Mais j'imagine que ça concerne d'autres États membres, non ?
De recours qui vont être jugés par la CNIL irlandaise. En fait, l'intérêt du RGPD, c'est que quelque chose qui va être jugé par une CNIL quelconque en Union européenne doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire européen. Donc là, il va y avoir beaucoup de travail, en fait, sûrement, pour cette CNIL irlandaise. L'intérêt aussi de la CNIL française d'avoir posé cette sanction, c'est que désormais, la CNIL irlandaise, elle doit aussi s'appuyer, enfin les CNIL sont censées travailler ensemble, et c'est aussi l'une des avancées d'harmonisation prévues par ce RGPD, c'est qu'elle doit tenir compte de ce qu'a jugé la CNIL française. Donc là, il y a une coopération renforcée entre les différentes CNIL, plutôt que forcément une multiplication en fait des affaires entre les différentes CNIL européennes.
Il y a les justices nationales à mal guiton, mais il y a aussi des justices transnationales. 2016, la Cour de justice de l'Union européenne prend un arrêt qu'on avait baptisé à l'époque Télé 2, qui concernait l'obligation pour les opérateurs de garder les coordonnées de ses clients pendant un an et qui pouvait ensuite éventuellement être utilisable d'ailleurs par les autorités publiques. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler cette décision qui était importante, mais qui montre là pour le coup l'influence que peut avoir une justice supranationale, en l'occurrence européenne?
Alors, en l'occurrence, le cas est un peu compliqué, puisqu'il n'y a pas eu, de traduction encore dans les législations nationales de cet arrêt qui en réalité embête beaucoup de monde et notamment les ministères de la justice des pays européens. En gros, depuis une directive européenne, je crois de 2006, il y a une obligation de conservation de ce qu'on appelle les données de connexion pendant un an par les opérateurs de communication électronique. Donc c'est notamment les fournisseurs d'accès à Internet. Ça va être les fournisseurs de téléphonie, etc. Et ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne en 2016, c'est qu'on ne peut pas imposer une obligation de conservation généralisée. Il faut qu'il y ait un motif. Donc, en gros, l'idée, c'est on ne peut pas conserver pendant un an les données de tout le monde. Or, c'est un matériau sur lequel s'appuie évidemment les services d'enquête et les services de justice. Et donc, là, il y a en fait un bras de fer depuis cet arrêt. D'accord. Ou en tout cas une réflexion pour essayer de trouver un nouveau cadre qui n'aille pas frontalement, effectivement, à l'encontre du droit européen qui dit clairement qu'il ne peut pas y avoir de conservation généralisée.
Amène, dit-on, reposez un tout petit peu votre voix, on va aller vous chercher un thé, ça ira mieux. Ouais. Anne Belon, la réaction du côté des États-Unis, comment est-ce qu'on a perçu l'adoption de cette nouvelle réglementation européenne et est-ce que ça a déjà eu des effets sur les géants du numérique américains, comme on les appelle?
Alors, l'intérêt...
Est-ce qu'on essaie de s'adapter déjà?
Alors, ce qui est intéressant avec le RGPD, c'est qu'il pose le principe d'extraterritorialité. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez une entreprise américaine basée aux États-Unis que le RGPD ne s'applique pas sur des données qui seraient en tout cas celles d'utilisateurs européens. Et donc ça, c'est déjà une véritable avancée proposée par le RGPD qui, du coup, va obliger toutes ces entreprises américaines, dont Google, bien entendu, mais beaucoup d'autres, à s'adapter à cette nouvelle réglementation pour leurs utilisateurs européens.
Ils ont commencé à le faire ?
On voit qu'ils ont commencé à être sanctionnés, en tout cas. Donc, ils vont et ils se sont adaptés dans le sens où, en tant qu'utilisateur de Facebook, de Google, vous avez vu que les conditions générales d'utilisation ont changé pour les utilisateurs européens. Donc oui, ils se sont...
Visiblement, ça ne les empêche pas de recevoir des amendes. Enfin, on n'y est pas encore, mais...
Bien sûr.
Donc, ça veut dire que c'est insuffisant. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils évoluent davantage, non?
Alors c'est ce qui va être essayé d'être fait, je pense, avec les sanctions qui vont s'accumuler ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, ils sont obligés de réagir. Enfin, cette question les concerne au premier plan. Ils ne peuvent plus faire comme si c'était des questions sur lesquelles ils pouvaient s'asseoir ou qu'ils pouvaient ignorer. Le deuxième point sur la réaction américaine, c'est est-ce que cela a fait ou va faire évoluer la législation américaine? On en est encore loin. Il y a quelques lois qui ont été passées, notamment plutôt au niveau des États, qu'on appelait les Do Not Track Law autour de 2011, qui ont été adoptées par certains États. Il y a eu quelques avancées sous l'administration Obama. Ce qui ressemble le plus, qui semble le plus s'approcher du RGPD, c'est le California Consumer Privacy Act, qui vient d'être adopté donc en 2018 et qui s'appliquera en 2020. Dans l'État californien uniquement, qui s'inspire un petit peu du RGPD, tout en étant tout de même moins protecteur. Par exemple, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont concernées. Le montant des sanctions auxquelles elles peuvent être, qu'on peut leur infliger, est bien moins important. Donc, il y a une évolution de la législation américaine.
Et est-ce que ça pourrait se généraliser à l'ensemble des États-Unis? Il pourrait y avoir une loi fédérale sur le modèle, justement, de cette nouvelle réglementation californienne, ou faut pas trop y croire? Parce que, jusqu'ici, on avait beaucoup parlé du Patriot Act qui avait été décidé par George W. Bush suite aux attentats du 11 septembre 2001. On est plutôt dans une atteinte assez claire et nette aux libertés numériques.
Alors après, ça renvoie à une autre question, parce qu'il y a la question de l'utilisation commerciale de vos données et celle de la surveillance. Donc là, c'est quand même deux questions. Et par exemple, en France, très récemment, on a adopté des lois qui, comparées même au Patriot Act, vont aussi dans ce sens d'un renforcement des moyens de surveillance pour les États dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc on a aussi des évolutions parallèles qui ne sont pas forcément dans le sens d'un renforcement de la protection des données personnelles de ce point de vue-là. Après, sur l'adoption prochaine d'une grande loi de protection des données contre les entreprises aux États-Unis au niveau de l'État américain, non. Là,
faut
je pense qu'on en est, on en est très loin. Oui.
Amel Guiton, vous avez peut-être récupéré votre voix. Pas encore. Alors, Anne Belon, je voudrais poursuivre sur la question de la mobilisation citoyenne. Quel regard vous portez sur les dynamiques qui sont aujourd'hui en cours? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement l'opinion, je parle de l'opinion, et peut-être moins des associations et des ONG qui, effectivement, on l'a vu, font leur travail. Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'opinion est en train de bouger sur ces questions-là?
C'est Difficile à dire. Je pense que tout doucement, hein, malgré tout, les différents scandales qui se répètent entre Cambridge Analytica, plus récemment, il y a une montée de la conscience sur ces sujets dans l'opinion. Mais on reste très loin d'un utilisateur lambda averti. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche au RGPD, c'est qu'au fond, la plupart des gens vont cliquer « j'accepte » sans véritablement se poser la question de ce qui est fait avec leurs données personnelles et des enjeux, en fait, que cela recouvre de partager des données sur votre santé, sur vos opinions politiques, etc. Donc, je pense qu'on
clique sur j'accepte parce que c'est le plus gros bouton, le plus clair, le plus évident. Donc, on accepte toujours, on est toujours d'accord. Il y a aussi là quelque chose. La question, justement, la demande du consentement, là aussi, on peut un peu pousser les gens vers une décision qui n'est pas forcément très réfléchie en réalité.
Oui, et c'est aussi que le modèle économique de cette économie numérique, il est fondé sur cette transmission de données et notamment des services gratuits. Donc là aussi, beaucoup d'entreprises se protègent avec ça en disant, au fond, ce sont les consommateurs qui veulent des services gratuits, donc on est obligé de vendre leurs données. Donc là, on voit bien qu'il y a un retournement, en fait, de ce discours mobilisé par de nombreuses entreprises. Je pense que malgré tout, les associations font un véritable travail de pédagogie aussi pour sensibiliser les gens, qu'il faudrait que ce travail de pédagogie soit fait de manière beaucoup plus large et vaste, parce qu'il y a beaucoup, et notamment auprès du public les plus jeunes, qui sont à la fois ceux qui transmettent le plus de données sensibles et qui sont parfois assez peu éclairés sur ce qui est fait de leurs données personnelles.
Est-ce que vous avez le sentiment, Amaël Guiton, que tout le monde s'y met? Il y a une mobilisation maintenant générale, parce que du côté des États-Unis, ça fait très très longtemps qu'on a compris qu'il fallait se mobiliser sur ces questions-là. Il y a des associations très connues du cyberespace, dont par exemple l'Electronic Frontier Foundation, qui avait été l'une des premières créées, c'était en juillet 90, et qui est évidemment le porte-drapeau d'une certaine manière de cette culture Internet, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'elle s'est généralisée et que maintenant tout le monde, ou à peu près, a compris les enjeux et se mobilise?
Disons qu'il y a une meilleure compréhension quand même. Et ça va par étapes. Ça a commencé avec les révélations de Snowden. Et je pense que le scandale Cambridge Analytica a probablement aussi, ça me paraît assez net, créer une conscience nouvelle autour de ces enjeux. Moi, je crois effectivement pas à une loi fédérale aux États-Unis. En revanche, c'était quand même pas inintéressant de voir tout un tas de parlementaires américains, et notamment des démocrates, tout à coup regarder ce qui se passait du côté de la vieille Europe en disant, mais il a l'air finalement pas si inintéressant ce règlement européen sur la protection des données. Il y avait une espèce de, entre guillemets, de retour de hype du vieux continent sur cette question-là. Et donc on voit bien que même là-bas où c'est compliqué pour plein de raisons, parce que effectivement le cadre actuel n'est pas très protecteur, et parce que c'est là où ces entreprises sont nées et là où elles ont construit leur marché, on voit que même là il commence à y avoir une réflexion sur ces questions.
Du côté des États-Unis, puis on va bientôt recevoir une nouvelle invitée, Séverine Arsène. Du côté des États-Unis, Anne Belon, et là on revient à la question tout à l'heure que vous évoquiez de la cryptologie. La cryptologie, la libéralisation au fond des usages de la cryptologie, de la cryptographie, c'est vraiment le cœur du combat aux États-Unis.
Alors ça a été pendant longtemps le cœur du combat de l'IFF, donc l'Electronic Frontier Foundation, même si, en faisant du terrain là-bas, on voit qu'ils sont pas insensibles à l'argument qu'on leur oppose, qui est aussi de dire si tout le monde se met à utiliser la cryptologie, et d'ailleurs à quel point est-ce qu'on est sûr de ces nouvelles techniques et comment on peut se garantir en fait de leur fiabilité, est-ce vraiment la solution? Enfin, moi j'ai assisté à des débats au sein même de l'IFF sur ces sujets. C'est une solution qu'ils ont en effet proposée pendant longtemps, c'est-à-dire généraliser l'usage de la cryptologie, de boîtes cryptées pour se protéger, mais eux davantage à ce moment-là une protection contre la surveillance du gouvernement américain dans un contexte Patriot Act et notamment scandale Snowden.
Il faudra que je vous réinvite pour faire une émission sur la cryptologie, mais pour l'heure on va parler donc surveillance par les États et on va prendre la direction de la Chine.
Je dis pas je suis chinois. Je suis Ouïghour, je viens de Turkestan oriental. Je viens en France il y a un an. Et à Pékin, je suis surveillé par les espionnages chinois. j'ai trouvé un appartement, mais chaque semaine ou deux semaines, les policiers vont entrer chez moi pour me voir et aussi pour regarder mon téléphone un petit peu ou mon ordi comme ça. Presque tout le temps comme ça, on ne peut pas bien rencontrer avec les amis, s'amuser la vie, tout le temps dérangé par la police.
Voilà, les propos d'un Ouïghour réfugié en France au micro d'Alain Lekovitz, c'était il y a quelques mois maintenant. Le téléphone qui en Chine est un formidable outil de contrôle des populations, et notamment de population Ouïghour, cette minorité turcophone musulmane du nord-ouest du pays. On va retrouver Séverine Arsen depuis Hong Kong. Elle est sinologue, chercheuse au Media Lab de Sciences Po. Alors comment les autorités surveillent-elles ces populations, notamment à travers les téléphones portables? Peut-on y échapper? Et d'ailleurs, quel est le cadre qui existe aujourd'hui en Chine? Les lois nationales sur la cybersécurité? Est-ce qu'on voit émerger dans la société civile justement des mouvement de protestation, comme on l'évoquait à l'instant. Séverine Arsen est au micro de Mélanie Chalandon.
En ce moment, les Ouïghours sont vraiment l'objet d'une surveillance très, très invasive, évidemment, qui les empêche de vivre normalement au quotidien. Les relations entre les Ouïghours et les Han sont tendues depuis longtemps déjà, mais en tout cas, après le 11 septembre 2001, la rhétorique autour du terrorisme est devenue plus dominante dans le monde, et ça a donné l'occasion au gouvernement chinois d'appliquer ce terme de terrorisme à toutes les occasions d'instabilité qui se sont déroulées au Xinjiang. Et en fait, ça a eu des effets contre-productifs, parce qu'en voulant lutter contre ce soi-disant terrorisme, en réalité, ils ont exacerbé les ressentiments au sein de la communauté ouïghour. Et donc, ils se sont engagés dans une espèce de fuite en avant pour essayer d'endiguer ce phénomène avec une répression de la population ouïghour qui s'assimile aujourd'hui à une véritable volonté de supprimer la culture elle-même. Donc, il y a véritablement une répression qui s'exerce sous azimut contre cette population aujourd'hui.
La répression et la surveillance, vous le disiez, elle passe notamment par le contrôle des téléphones portables, hein, dont les contenus peuvent être interceptés à tout moment. Vous le disiez par exemple lors d'un passage de checkpoint. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, d'ailleurs pour les Ouïghours comme pour l'ensemble de la population chinoise, tout ce qui transite par les téléphones, les communications, les contenus, les photos, les vidéos, ne sont aujourd'hui absolument pas protégés au sens où actuellement, les autorités peuvent avoir accès à peu près à tous les contenus individuels?
Oui, la grande différence de ce point de vue-là entre la Chine et le reste du monde, c'est le contexte, le cadre légal dans lequel cela se produit. C'est-à-dire que dans la plupart des autres pays, les autorités peuvent, sous certaines conditions, demander à nos opérateurs téléphoniques de fournir, par exemple, l'historique de nos communications, ou saisir un téléphone portable et à condition que les données ne soient pas acceptées, regarder ce qu'il y a dedans. Mais ça se fait sous contrôle d'un juge et à condition qu'il y ait des raisons graves qui motivent ce type d'examen. Dans le cas de la Chine, ces conditions et ces contre-pouvoirs n'existent pas pratiquement. Donc du coup, la police a beaucoup plus de liberté et de marge de manœuvre quand il s'agit d'exercer ce type de surveillance très, très intrusive.
Alors, il y a quand même une loi qui a été votée en juin 2017, hein, la loi sur la cybersécurité, qui était peut-être les prémices du début d'un encadrement des données notamment sur téléphone portable. Est-ce que cela offre de véritables garanties pour les citoyens? Et est-ce que c'est le signe aussi peut-être d'un début de prise de conscience et d'un débat qui émerge en Chine sur la question de la protection des données?
Alors effectivement, il y a l'émergence d'une plus grande sensibilité du public à la question de la protection des données personnelles. Pendant longtemps, on disait qu'en Chine, il n'y avait pas d'appétence ou de demande du public pour la protection de la vie privée, que ce n'était pas une question qui leur importait, etc. Et pourtant, au fur et à mesure des années, on a quand même vu plus récemment apparaître des premiers mouvements de protestation. Notamment parce que les grandes collectes de données, ça occasionne des fuites et ça fait que les gens sont progressivement soumis à des arnaques, à des cas de plus en plus nombreux d'usurpation d'identité. Donc il y a une criminalité qui se développe autour de la collecte et du partage des données personnelles, sait que les gens sont quand même devenus beaucoup plus sensibles à ces questions. La loi sur la cybersécurité, entre autres sujets, comporte quelques paragraphes qui entendent répondre à ces questions et à ces préoccupations.
Ça vous paraît suffisant en termes de garanties qui pourraient être apportées ?
Alors, il y a des avancées qui sont certaines en termes de protection des données personnelles. Plusieurs mesures s'inspirent des cadres juridiques qui ont été mis en place ailleurs dans le monde et en tout cas des normes mondiales promues par l'OCDE, telles que d'abord la transparence vis-à-vis du consommateur ou de l'utilisateur sur quels sont les types de données qui sont collectées, l'exigence du consentement du consommateur, le fait qu'il a un droit de regard et de modification sur ces données, le fait que les données doivent être collectées de manière proportionnelle par rapport à l'utilisation qui en est faite, etc. Donc tout ça, c'est des normes qui sont positives et qui sont relativement acceptées à l'échelle mondiale. Donc on a une véritable avancée de ce côté-là. Maintenant, il y a une distinction à faire entre la protection des citoyens, et des données personnelles des citoyens, et une autre catégorie de protection, c'est non seulement la loi sur la cybersécurité, mais aussi toute une série de documents d'application dans différents domaines ont apporté, c'est la notion des données importantes. Et cette fois-ci, c'est important du point de vue de la sécurité nationale, de l'économie, de la société ou de l'intérêt public. Et avec des définitions qui sont à chaque fois très, très vagues autour de ces notions. Et là, l'État, en fait, apporte des nouvelles normes dans ce domaine-là qui peuvent parfois, en fait, être même pas victoire avec la protection des données personnelles.
Oui, mais justement, Séverine Arsène, est-ce qu'il n'y a pas une attitude un petit peu ambiguë du gouvernement chinois qui, d'un côté, commence à obliger les gens du web à respecter certaines normes dans la protection des données et qui, de l'autre côté, procède lui-même à une collecte massive de données dans un objectif de surveillance de la population avec notamment les systèmes de reconnaissance faciale, de caméras dans la rue, etc.
C'est ça, il y a cette idée qu'on doit protéger les citoyens des abus qui sont faits par les sociétés privées, celles qui collectent à grande échelle les données personnelles, notamment celles sur les réseaux sociaux, les sociétés de e-commerce, etc. C'est l'idée que c'est eux qui sont la source de différents risques, qu'il faut donc établir un cadre pour leurs activités, mais par contre, effectivement, on n'est pas protégé de la collecte de la manipulation des données qui est faite par l'État, parce que l'État, dans ce contexte-là, est réputé comme étant celui qui protège l'ordre public et il ne doit pas être entravé dans ces différentes activités. De ce point de vue-là, ça, c'est un peu le positionnement qu'on peut détecter à travers les différentes réglementations qui ont été passées ces dernières années.
Ce projet de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale, il a déjà été mis en place dans plusieurs villes. Est-ce que ça veut dire que quand on parle de société de Big Brother en Chine, on n'est plus dans l'exagération, on n'est pas loin de la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'aime pas trop ce genre de moquer parce qu'il n'y a pas vraiment une définition très précise derrière. On pourrait appliquer ça très bien aux sociétés occidentales aussi, puisque tous nos faits et gestes sont enregistrés d'une manière ou d'une autre par les différents réseaux sociaux qu'on utilise au quotidien. Mais encore une fois, la grande question, c'est quelles sont les protections juridiques sur la manière dont ça va être utilisé derrière, partagé, instrumentalisé. Effectivement, dans le contexte chinois, il y a protection. Il est vrai que la police s'est dotée d'énormément de caméras de surveillance dans les espaces publics et dont une partie d'entre elles sont équipées de reconnaissance des visages, donc qui leur permet de suivre aussi les déplacements de certains individus. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a pu avoir plus de détails dans le cas de Xinjiang et des Ouïghours récemment. Donc effectivement, on a ce genre de dispositifs et qui sont utilisés sans contre-pouvoir et sans garde-fou. C'est effectivement ça qui peut faire quoi.
I could tell the minute that I saw him. He was nothing but the trouble-making kind. His hair was much too long, and his motley group of friends had nothing but rebellion on their minds.
Voilà, merci beaucoup à Séverine Arsène qui est avec nous depuis Hong Kong au micro de Mélanie Chalandon. Séverine Arsène qui est sinologue, chercheuse au Media Lab de Sciences Po. Un grand merci à nos deux invités, Amaëlle Guiton, journaliste à Libération, spécialiste des enjeux numériques. On peut lire vos papiers sur le site de Libération. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et voilà, protégez votre voix pour aujourd'hui, c'est fini. Vous n'ouvrez plus la bouche aujourd'hui. Anne Belon, merci infiniment d'avoir été avec nous également. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'Université Paris 1. Votre thèse peut-être apparaître un jour. Qui sait, ça serait une bonne chose. Gouverner l'Internet, mobilisation, expertise et bureaucratie dans la fabrique des politiques numériques. Un grand merci d'avoir été avec nous ce
merci
matin.
Merci à vous. He'd rather wear his sandals and
his flowers. Alors, on retrouvera Brice Couturier demain, mais pour l'heure, dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.